jour, de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation. La tête dans les étoiles aujourd'hui pour nous interroger sur les mystères du cosmos. De A comme astéroïde, à Z comme zodiaque, en passant par P comme pulsar ou T comme trou noir, l'astrophysicien Trinh Tuan Tuan nous fait partager son dictionnaire amoureux et illustré du ciel et des étoiles. Nébuleuses bariolées, pouponnières stellaires jusqu'aux galaxies les plus lointaines, c'est un vertigineux voyage dans l'espace et dans le temps, sur les voies de la lumière, dans la mélodie secrète de l'univers, qui nous pousse aussi à nous interroger, nous, qui sommes des poussières d'étoiles, sur notre condition humaine autour de la question « Comment partager le même ciel ?» Bienvenue. Bonjour Trinh Tuan Tuan.
Bonjour.
Merci d'avoir profité de votre passage à Paris pour venir dans notre studio sur RFI. Vous êtes professeur d'astrophysique à l'Université de Virginie aux États-Unis, où vous enseignez même l'astrophysique pour les poètes, c'est ça?
Oui, c'est un titre imagé, hein. C'est vraiment pas des poètes, mais ce sont des littéraires, c'est-à-dire des gens qui ne vont pas se destiner à la science dans leur carrière. Mais donc c'est pour moi, c'est un vrai challenge d'avoir... leur montrer l'intérêt de la science et pourquoi elle nous élève comme hommes et puis pourquoi la société devrait être derrière cet effort.
Après avoir exploré les voies de la lumière, c'était vos travaux, mais c'est aussi le titre de l'un de vos ouvrages, parce que vous aimez, hein, on le comprend, faire passer votre science au plus grand nombre. Vous êtes l'auteur, Trinh Tuan Tuan, de plusieurs livres qui ont d'ailleurs connu un grand succès. On peut citer La mélodie secrète de l'univers, Le chaos et l'harmonie, La plénitude du vide, ou encore Le cosmos et le lotus. Les éditions Plomb et Grund viennent de publier votre dictionnaire amoureux et illustré, magnifiquement illustré, du ciel et des étoiles, un ouvrage magnifique qui suscite l'émerveillement, mais aussi de nombreuses questions sur ce bestiaire étrange de l'astrophysique, des naines blanches aux pulsars, des trous noirs aux quasars, des questions aussi sur nos origines, comment l'infiniment petit a-t-il accouché de l'infiniment grand, comment sont apparus le soleil et la lune, pourquoi plus on voit loin dans l'espace et plus on remonte le temps, et jusqu'où, des interrogations astrophysiques et métaphysiques, c'est tout ça que vous voulez partager, Trinh Tuan Tuan.
Oui, vous savez, c'est comme vous dites, c'est vraiment l'histoire de l'univers, c'est l'histoire de nos origines. Donc, en étudiant l'univers, nous nous étudions nous-mêmes, d'où venons-nous, où allons-nous. Et donc, l'univers, comme vous le dites aussi, possède tellement de phénomènes étranges et bizarres qui défient l'imagination, parce que l'univers est très créatif et imaginatif, vous voyez, et c'est toujours une surprise en fait pour l'homme de découvrir des choses.
Toujours une surprise, toujours un émerveillement pour l'arpenteur du cosmos que vous êtes, ça ne s'émousse pas cet émerveillement?
Non. Moi je fais ce métier depuis 40 ans, je fréquente les observatoires depuis des décennies, mais c'est toujours le même émerveillement. Vous savez, c'est même pas intellectuel, c'est émotionnel. Quand on voit ce firmament étoilé, rempli d'étoiles, à l'œil nu, on peut voir environ 3000 étoiles d'un site. Et je sens toujours une immense connexion cosmique, vous voyez.
Une connexion entre les hommes et le cosmos.
Et le cosmos, voilà. Et bien sûr, la science a vérifié ça, parce que nous savons aujourd'hui que nous sommes tous ces poussières d'étoiles et que la plupart des atomes qui constituent nos corps proviennent de la fusion nucléaire dans les étoiles. Et donc les étoiles sont nos ancêtres, nous partageons tous la même généalogie cosmique. Nous sommes les frères des bêtes sauvages et les cousins des coquelicots des champs.
Vous êtes philosophe hein, aussi, pas seulement astrophysicien, Trinh Tuan Tuan. Mais quand on est astrophysicien, au fond, on se rend compte aussi que plus on explore l'infiniment grand, plus on le comprend, plus on découvre cette immensité-là, mais aussi l'immensité de notre propre ignorance, non?
Oui, c'est donc justement il y a cette interdépendance entre notre existence et l'univers. L'homme se situe entre en fait deux infinis. Vous voyez, il y a l'infiniment grand qui est l'univers et puis l'infiniment petit qui est le monde des atomes, et le monde subatomique.
Pascal le pressentait déjà hein, entre les deux infinis autour de la question comment partager le même ciel, puisque vous nous ouvrez dans ce dictionnaire amoureux du ciel et des étoiles les portes de l'infiniment grand. Je propose de commencer par quelques interrogations partagées par toutes les poussières d'étoiles, c'est-à-dire tous les petits et grands esprits que nous sommes.
petits mots.
Oui.
Tu t'es déjà demandé ce que c'était que ces petits points brillants là-haut?
C'est pas la peine que je me le demande, je le sais.
Oh, et c'est quoi?
Des lucioles, Pumba. Un genre de verre qui reste collé sur cette espèce de machin bleu marine.
Oh, tiens. Moi, je pensais que c'était des bulles de gaz qui brûlaient à des billions de kilomètres de nous.
Toi, à part le gaz, il n'y a pas grand-chose qui t'intéresse.
Simba, qu'est-ce que t'en penses?
Ceci est notre monde. Un endroit accueillant, confortable et familier. Levons les yeux. Pour visiter l'univers jusqu'à ses frontières. Pour ressentir la chaleur intense d'étoiles en fusion. Pour faire face à la puissance de violentes collisions cosmiques. Pour échapper à des étoiles meurtrières et à des trous noirs colossaux et insatiables.
Dis-moi, lumineux scientifique, tu n'en es pas moins philosophe, comme chacun sait. Que fais-tu donc sur la colline, le nez dans les astres ?
Question malicieuse d'Alexandre Astier, destinée en fait au départ à Ptolémée, mais que je vous retourne dans son exoconférence d'Alexandre Astier, que je vous retourne, Trine Chuan-Chuan. Que faites-vous donc le nez dans les astres, ou plutôt depuis quand avez-vous le nez dans les astres ?
Enfant, j'étais toujours curieux. Je me posais toujours des questions sur l'origine des choses, comment les choses marchaient.
Et donc, Votre enfance, vous l'avez passée au Vietnam, donc sous le ciel du Vietnam.
C'est ça. Et d'ailleurs, je ne m'intéressais pas encore à l'astrophysique à ce moment-là. Vous savez, je voulais devenir physicien. Vous voyez qu'il y a vraiment l'étude des lois fondamentales de la nature, comment les choses fonctionnent, etc. Je n'ai découvert l'astronomie que quand je suis allé à l'université et par le biais du général de Gaulle, d'ailleurs. Vous savez, en 1966, j'ai terminé mon bac dans mon lycée français à Saigon et je voulais aller faire les écoles préparatoires à Paris, maths sup, maths spé. J'avais même réservé une chambre à Louis-le-Grand. Mais au dernier moment, le général de Gaulle donne un grand discours à Phnom Penh, au Cambodge, donc, disant qu'il fallait que les troupes américaines, c'était en pleine guerre du Vietnam, bien sûr, et il fallait que les Américains retirent toutes leurs troupes du sud-est asiatique parce que c'était un conflit interne entre le nord et le sud. Bien sûr, colère du gouvernement sud-vietnamien qui rompt toute relation diplomatique avec la France, donc interdiction à tout étudiant d'aller étudier en France.
Vous avez été empêché à ce moment-là.
Voilà, ouais, par
la situation géopolitique.
Grande histoire.
Par la grande histoire, oui.
Voilà. Et donc, je suis, donc, ne parlant pas anglais, en balbutiant quelques mots d'anglais, je n'étais pas tout de suite parti pour l'Amérique, mais donc j'ai choisi un pays francophone. En fait, je suis allé une année à l'École polytechnique de l'Université de Lausanne.
En Suisse,
donc qui est francophone. Mais finalement, j'ai découvert aussi que je voulais étudier les lois fondamentales de la nature. Pas une école d'ingénieur, vous voyez, c'est l'application des lois physiques aux situations de la vie quotidienne. Donc, donc j'ai sauté le pas, j'ai demandé mon admission à 3 universités américaines scientifiques, parmi les plus prestigieuses, dont Princeton, parce que mon idole scientifique, Einstein, a passé les dernières années de sa vie là. Et puis, bon, les deux grandes universités scientifiques de l'Amérique, dans la côte Est, c'était le MIT, et puis le côte Ouest, c'est Caltech. Et puis finalement, j'ai choisi Caltech, vous savez, pour une raison assez idiote, en fin de compte. C'était parce qu'il y avait le mythe de la Californie, du surf, des chansons de Beach Boy, de belles filles, des plages, etc. Donc, vous voyez,
il y avait tout pour vous y attirer,
voilà,
en Californie.
Donc, et puis, les années 60, il y avait le mouvement hippie, enfin, vous voyez, le mouvement anti-guerre. Enfin, tout ça, c'était la grande histoire mêlée à la petite histoire. Donc, finalement, je suis allé à Caltech pour échapper à l'hiver. Et donc, je découvre que le campus avait le plus grand télescope du monde qui regardait plus loin de l'univers, donc le télescope de 5 mètres à Palomar. Un jour, un de mes professeurs m'y amène pour justement étudier les pulsars qui venaient d'être découverts.
Les pulsars,
des étoiles à neutrons qui tournent très, très, très vite. Et donc, À 19 ans, vous savez, ayant accès à un télescope qui voyait le plus loin dans l'univers, seulement, il remontait le temps de.
Et oui, parce que plus on voit loin dans l'univers et plus on remonte loin dans le temps.
C'est ça, exactement. Donc, il remontait 7 milliards d'années. Et puis, donc, voilà, donc, j'étais ébloui. Et donc, je suis tombé dans la marmite de l'astronomie et j'ai décidé de devenir astrophysicien.
D'où ce dictionnaire amoureux et fabuleusement illustré du ciel et des étoiles. Si on commence et qu'on l'ouvre évidemment par la lettre A, on tombe sur pas mal de A. Il y a arc-en-ciel, aurore boréale, atmosphère, mais il y a évidemment astéroïdes. Ah, comme astéroïde, le ciel risque-t-il de nous tomber sur la tête, Trinson Tuan?
Voilà, donc il y a des astéroïdes. Alors, des ceintures d'astéroïdes dans le système solaire. Il y a une ceinture d'astéroïdes qui est entre Mars et Jupiter. Donc, les astéroïdes poursuivent sagement leur orbite, donc autour du Soleil. Mais de temps en temps, il y a des chiquenaudes gravitationnelles qui envoient un astéroïde.
Des chiquenaudes gravitationnelles, oui, d'accord, oui, c'est ça.
Qui envoie des astéroïdes vers le système solaire. Alors, si l'orbite de cet astéroïde croise l'orbite de notre Terre, bien sûr, le ciel va nous tomber sur la tête. Nous risquons d'avoir des astéroïdes de 1 à 10 km qui frappent la Terre, donc ce qui va causer. D'ailleurs, il y a 65 millions d'années, vous savez, il y a un grand astéroïde d'environ 10 km de diamètre qui a frappé la Terre et a causé donc, la mort des dinosaures et les trois quarts des espèces vivantes à ce moment-là.
Donc c'est une menace au-dessus de nos têtes, mais en même temps, il y a des tas d'astéroïdes qui gravitent sans nous tomber dessus.
Bien sûr, dans les astéroïdes qui dans la ceinture des astéroïdes entre Mars et Jupiter, bien sûr, poursuivent sagement leurs orbites sans venir nous perturber.
C'est un rappel hein, que l'espace, le ciel, l'univers au-dessus de nos têtes est non seulement splendide, magnifique, vertigineux, sidéral et sidérant. Si nous passons maintenant à la lettre B, alors B évidemment il y a beauté de la nature, splendeur de l'univers, mais il y a aussi Big Bang, l'origine de l'univers. Comment on illustre le Big Bang, puisque ce dictionnaire est illustré, vous avez choisi, et c'est magnifique, une rosace de l'église Bonaventure à Lyon.
Alors, le Big Bang, justement, je voulais choisir cette image parce que, vous savez, on pense que le Big Bang est parti d'un espace préexistant et donc d'un point quelconque qui est le centre. Donc, on me demande souvent d'où est parti le Big Bang, où est le centre de l'univers. Mais il n'y a pas de centre de l'univers. Parce que l'univers est parti d'un vide, un vide pas néant, mais vide rempli d'énergie. Et en fait, il ne faut pas parler d'un espace préexistant, vous voyez. L'espace et le temps est créé en même temps que l'explosion primordiale. Et donc, maintenant, il y a de plus en plus d'espace qui se crée entre les galaxies.
Donc, l'univers est en expansion,
oui.
mais avant le Big Bang,
il n'y avait rien.
Enfin,
voilà. Donc,
rien.
C'est difficile à concevoir, mais oui. Il faut le concevoir comme ça. Il ne faut pas penser à un espace préexistant dans lequel les galaxies se déplacent, mais en fait, un espace qui se crée. Et les galaxies sont comme des raisins sur un gâteau, vous voyez, qui gonflent, en fait.
Ah, donc, l'image, comme des raisins qui gonflent sur un gâteau.
Oui,
d'accord.
Oui,
donc ça continue de gonfler.
Oui, le gâteau gonfle, donc il y a plus d'espace dans les raisins, mais les raisins eux-mêmes, bien sûr, ce sont des galaxies, elles gonflent. Donc, tout le mouvement vient de la surface du gâteau, pas des raisins.
Tout le mouvement vient de la surface du gâteau. Voilà comment on peut...
Imaginez le Big Bang.
Imaginez le Big Bang, parce que c'est ça, on peut l'approcher scientifiquement, on peut l'imaginer avec nos esprits. Nos esprits, nous qui sommes tous, vous l'avez rappelé, des poussières d'étoiles. Alors évidemment, les étoiles, comment ça naît une étoile? Il y a des images fabuleuses de pouponnières stellaires.
Oui.
De la naissance d'une étoile.
Donc le terreau galactique, d'abord, il faut dire que nous vivons dans une voie lactée, hein, donc une collection d'une centaine de milliards de soleils liés ensemble par la gravité. Donc, notre soleil, c'est une seulement parmi les 100 milliards
d'autres soleils.
D'autres soleils, voilà. Et donc, ces étoiles sont nées, en fait, de nuages et d'hydrogène et d'éléments lourds fabriqués dans les précédentes générations d'étoiles qui s'effondrent sous la gravité. Et quand elles s'effondrent, vous savez, elles deviennent plus denses. Et la température croît, et quand la température dépasse une quinzaine de millions de degrés, les réactions nucléaires se déclenchent. Donc, les réactions nucléaires donc, transforment la matière en énergie, d'après la fameuse formule, la plus fameuse formule de la physique, E égale MC2 d'Einstein d'ailleurs, et où il dit que l'énergie est égale à la matière, mais multipliée par le carré de la vitesse et la lumière. Donc voilà, en s'effondrant gravitationnellement, ces nuages d'hydrogène et d'hélium, et seulement le 2% d'éléments lourds, s'allument en quelque sorte par la fusion nucléaire et les boules gazeuses deviennent des étoiles.
Donc, voilà la naissance d'une étoile. On va revenir sur la naissance, la vie et la mort des étoiles. Alors certaines étoiles qui n'en sont pas vraiment, les étoiles filantes par exemple,
c'est un abus du langage populaire. Parce que les étoiles filantes proviennent des grains de poussière qui rentrent dans l'atmosphère terrestre et qui brûlent. Donc ça trace des trajets de feu, vous voyez, mais ce n'est pas une étoile qui se déplace.
Allez, on s'arrête sur ces grains de poussière que nous baptisons étoiles filantes en version reggae hip-hop sur RFI, Volodia et Yannis Audois, étoiles filantes.
Au-dessus des lumières artificielles de nos villes, l'idée c'est la survie, l'utopie, ni la fierté ni l'honneur. Car tant que la thune et que la liberté sentiront la même odeur, des pères sans peur, des mères, des sœurs sécheront des pleurs. Quand l'avenir se meurt, tapis dans l'ombre des étoiles, éclaire les cœurs. Comme un phare que l'on vient d'apercevoir dans la tempête et le noir, il sera l'espoir, celui qui maintient la barre, celui qui réécrit l'histoire. Il n'est jamais trop tard quand on n'a pas peur du soir, car même perdu dans le néant, résisteront ces rêveuses, cherchant une vue plus large au-dessus. Cette atmosphère brumeuse, prenons-les en exemple et prenons ce recul ensemble. Chaque poussière d'étoiles compte pour former une nébuleuse. Oh.
Regardons les étoiles filer sur RFI avec Volodia et Yannis Audois autour de la question comment partager le même ciel. Nous continuons de feuilleter le dictionnaire amoureux et illustré du ciel et des étoiles de notre invité, l'astrophysicien Trinh Chuan Tuan. Je vous emmène maintenant, Trinh Chuan Tuan, au Maroc, à l'observatoire d'Oukaïm Den. C'est dans le Haut Atlas marocain où des astrophysiciens et des astronomes passionnés mènent leurs recherches et font de nombreuses découvertes. Nous avons eu la chance de le visiter en octobre dernier et d'y rencontrer sous sa coupe Paul, niché dans les montagnes du Haut Atlas, l'astrophysicien Fouad Sefiani en quête de son étoile.
Vous écoutez RFI autour de la question.
Alors, être astronome, c'est une passion. Depuis l'enfance, j'aimerais toujours aimer comprendre comment les étoiles vivent en fait. Et là j'ai devant une particularité d'une étoile spéciale qui s'appelle RLRS, une étoile variable qui a été observée depuis 1899, dont la vie a basculé sous forme d'une pulsation de va-et-vient qui dure sur 13 heures, 36 minutes et 17 secondes. Et à travers ce mouvement-là, qui se reflète à travers l'analyse spectrale de la lumière émise par cette étoile, ça nous permet de remonter à sa vie et à sa dynamique atmosphérique, chose qu'on ne peut faire qu'avec un observatoire où on a suffisamment de temps, ce qui est le cas de l'observatoire d'Oukaïm Den. Par contre, ailleurs, le temps est tellement cher qu'on ne peut pas se procurer des mois d'observation de manière continue. Voilà. C'est pour ça que c'est ici qu'on peut faire ce genre de recherche.
Et donc cette étoile, vous l'étudiez, vous l'observez à partir de quelle coupole, de quel télescope ici dans cet observatoire d'Oukaïm Den?
C'est la coupole principale de l'observatoire, c'est la coupole, je peux dire, marocaine, sur laquelle est installé un télescope actuellement de 40 cm de diamètre et un spectrographe de résolution 12 000. C'est un petit télescope, c'est un petit spectrographe, mais pour ce genre de recherche, c'est suffisamment pour obtenir de résultats tangibles.
Vous voulez réagir, Tini Chuan-Chuan, au propos de l'astrophysicien Fouad Sefiani, professeur à la faculté des sciences et techniques de Marrakech, dans cet observatoire d'Oukemden, petit par la taille, mais qui a fait de sacrées observations.
Oui, je pense qu'il y a une complémentarité certainement entre les grands télescopes que j'utilise, parce que moi je vois très faible, donc très loin, donc pour remonter le temps, vous voyez. Donc. Mais pour des objets...
Donc vous allez plutôt sur des grands télescopes au Chili?
Au Chili ou à Hawaï. Mais il y a certainement une très grande utilité pour les petits télescopes, pour des objets plus brillants. Et la compétition pour les grands télescopes est très très grande. Donc on ne pourra pas observer continuellement une étoile variable comme il l'a décrit. Et donc on doit se rabattre sur les plus petits télescopes où la compétition est moins grande, mais où le temps est plus disponible, donc on peut étudier l'effet de variation dans toute son ampleur.
On peut étudier donc la naissance, la vie d'une étoile et la mort d'une étoile. Qu'est-ce que c'est qu'une naine blanche, Trinity?
Une naine blanche, c'est la mort. Ce sera la mort du Soleil. Le Soleil va...
Terminer mourir, en naine blanche.
Mourir en naine blanche.
Dans combien de temps? Il est à mi-vie,
donc il est né il y a 4,5 milliards d'années et il va mourir dans environ 4,5 milliards d'années.
Donc dans 4,5 milliards d'années, il va s'effondrer et devenir une naine blanche.
Parce que, vous savez, les étoiles meurent en consommant tout le carburant d'hydrogène. Et donc, ce carburant va être puisé pour le Soleil dans 4,5 milliards d'années. Il y aura plus donc de rayonnement qui résiste à la gravité, la masse du Soleil. Et donc, le Soleil va s'effondrer sous son propre poids et donc va se concentrer de plus en plus. Et donc maintenant, il a un diamètre d'un million de kilomètres. Et la naine blanche a un diamètre à peu près de la Terre, 10 000 km. Donc vous voyez, toute la masse du Soleil va être concentrée dans un plus petit volume.
On est dans des échelles considérables, voilà. Échelle de temps et échelle de volume considérable.
Mais ici c'est la contraction bien sûr, et la densité va bien sûr augmenter. Et donc, je peux vous donner une image, une cuillerée de naine blanche pèse autant qu'une tonne, c'est-à-dire un éléphant. C'est comme si vous mettez un éléphant sur une cuillerée.
Une cuillerée de naine blanche, quelle image.
Voilà, donc une tonne, vous voyez, une tonne par centimètre cube. Et voilà, donc ça c'est le destin du Soleil. Mais il y a des étoiles plus massives que le Soleil, bien sûr. Et donc, la gravité va comprimer encore plus pour les étoiles, disons, de 5 masses solaires, 5 fois la masse solaire. Et ça va devenir ce qu'on appelle une étoile à neutrons, dont on parlait tout à l'heure, ou un pulsar. Un pulsar, parce que vous voyez, les étoiles à neutrons... quand elles s'effondrent, tournent de plus en plus vite. Ce sont de vrais toupies aux phares célestes. Phares parce qu'il y a un rayonnement sous forme d'un faisceau de phares, en fait.
Qui balaie. Les pulsars, c'est quoi? C'est des phares cosmiques.
Des phares cosmiques, voilà, qui balaient la Terre. Et chaque fois que le faisceau balaie la Terre, il y a un pulse de radio. Donc c'est pourquoi on l'appelle des pulsars, justement. Et puis la troisième, il y a trois sortes de morts. Hein. Donc la naine blanche, de la masse du Soleil, 5 fois la masse. Du Soleil, c'est une étoile à neutrons, un pulsar. Et puis, une dizaine de masses solaires, ou encore plus, 20 masses solaires, ça, rien ne peut arrêter la gravité et ça devient un trou noir, vous voyez. Ça devient une singularité et donc l'espace est complètement recourbé.
Donc une troisième sorte de mort d'étoile gigantesque, c'est un trou noir.
Oui, gigantesque ou massive, c'est la masse qui compte.
C'est la masse qui
compte. Oui, c'est ça. Donc c'est un trou noir. Donc il faut des masses de 10 à 20 ou 30 masses solaires, des choses comme ça.
Aujourd'hui, on peut... presque s'approcher des trous noirs, en tout cas les observer grâce aux ondes gravitationnelles. Une découverte qui a eu lieu
extraordinaire
et qui permet d'ouvrir justement une autre fenêtre sur ces sidérants vertigineux trous noirs.
Tout à fait, parce que la lumière nous permet de voir des phénomènes seulement bien loin donc de la singularité de l'horizon du trou noir. Donc les ondes gravitationnelles nous permettent donc vraiment d'approcher de l'horizon du trou noir et d'étudier la gravité dans toute sa splendeur, en fait. Donc, tester de nouveau la gravité générale, qui est une théorie de la gravité. Voyez.
Grâce à cette découverte des ondes gravitationnelles, il y a aussi d'autres objets étranges. Et parmi les plus lumineux de l'univers, vous qui vous intéressez beaucoup à la lumière, c'est les quasars. Qu'est-ce que c'est que les quasars?
Les quasars sont des... je donne leur propriété, comme vous dites, des objets très, très, très lumineux. mais dont toute la luminosité est émise de façon très compacte dans un volume à peine le volume du système solaire. Donc vous voyez, beaucoup d'énergie produite dans un très petit volume, et on pense que c'est un trou noir supermassif, justement. Supermassif parce qu'au lieu de 20-30 masses solaires, ces trous noirs ont de l'ordre d'un milliard de masses solaires. Donc, vous voyez, et ils dévorent à tout va les imprudentes étoiles qui passent à proximité. Et donc, ces étoiles, en tombant dans la bouche du trou noir, émettent beaucoup de rayons X, et comme ça qu'on, des rayons radio aussi, et comme ça qu'on découvre ces quasars, en fait. Et optiquement aussi, visuellement aussi. Et donc voilà, donc c'est, moi je dirais, donc la définition quasar, c'est une galaxie qui possède en son cœur un trou noir supermassif d'un milliard de masses solaires qui dévore à tout va des étoiles.
Je propose de poursuivre ce vertigineux voyage dans le cosmos en suivant une étoile, celle d'Ablaï Sissoko, pour rester sous le même ciel d'Afrique du côté du Mali. Le morceau s'appelle Lolo, l'étoile.
Yo ya suma bideo Lo monde renaître Yo ya suma bideo Ya mai maki mom la baga Bye mai maki Mom la sopa Bidi wi bari na nyulolo Waye wute na nyu Bidi wi bari na nyulolo dal Waye wute na nyu Aglu nyule I'm not busy, can I let Bobo Sama be do la? I get Lumia to Dal, Otto Duchado, Galvi watch it, Tumbadal. Mama esuma bidiu sornasi
Lolo, l'étoile du berger Ablaï Sissoko sur RFI. Autour de la question comment partager le même ciel en compagnie de l'astrophysicien et poète, on l'a compris, Trinh Tuan Tuan, et de son dictionnaire amoureux illustré du ciel et des étoiles, je propose de retourner au nord du continent africain, au Maroc, dans le Haut Atlas, à l'observatoire d'Oukemden, où l'astrophysicien Zouaïr Ben Khaldoun, qui veut faire de cette région la première réserve de ciel étoilé d'Afrique, a fait des découvertes assez extraordinaires, notamment en collaboration, celle du plus grand système d'exoplanètes, explication in situ, sous les coupoles de ce petit observatoire niché au cœur des montagnes du Haut Atlas.
Autour de la question, Caroline Lachowski.
Zouaïr Ben Khaldoun, on est ici à l'observatoire d'Oukemden, au Maroc, sur une des coupoles en haut de la montagne. C'est ici que vous avez participé, entre autres, à la découverte du plus important système d'exoplanètes connu à ce jour, le système TRAPPIST. Alors à partir d'où? Décrivez-nous un peu le lieu, puis dites-nous à partir de quelle coupole vous avez travaillé.
Alors là, nous sommes sur la terrasse de la coupole de l'Institut spatial coréen, le diminutif c'est KASI, et on voit en face de nous la coupole TRAPPIST qui a participé à la découverte donc de ce fameux système TRAPPIST avec ses 7 exoplanètes. C'est un télescope de 60 cm de diamètre et il a participé donc à l'observation du système TRAPPIST, additionné aux autres observations des autres télescopes qui se trouvent autour du monde, et aussi avec la participation du télescope Spitzer de la NASA. Et donc c'est comme ça que disons, la découverte de ce système est partagée par plusieurs institutions, dont l'Oukemden, mais aussi dans la NASA.
Qu'est-ce que ça vous a fait, Zahir Ben Khaldoun, ici, à l'Observatoire de Louk Hamilden, cette découverte? Enfin, est-ce que c'est pour l'astrophysicien que vous êtes, c'est un grand moment? Enfin, comment est-ce qu'on vit ça?
Oui, c'est un grand moment. En fait, l'Observatoire, bien avant cette date, a fait parler de lui. Il a fait plusieurs découvertes dans le domaine essentiellement des petits corps du système solaire. Mais la plus importante, effectivement, ça a été cette découverte-là, à plusieurs titres. D'abord, parce que, comme vous l'avez bien dit au début, c'est le plus important à ce jour, le plus important système susceptible d'abriter la vie. Et donc, l'engouement est vraiment très grand pour ce système-là et pour cette découverte. Tellement grand que je peux vous dire que ce système a été programmé pour qu'il soit observé par le futur James Webb Space Telescope. Quand vous savez l'importance ou le coût d'observation dans les télescopes spatiaux, le fait d'avoir retenu ce système, c'est qu'il est très important. L'autre volet de l'importance de ce système, c'est que ça a été publié dans la meilleure revue qui existe dans le monde, donc la revue Nature. Et évidemment, pour l'Observatoire, c'est aussi important de publier dans cette revue, mais aussi, pas seulement de publier, c'est maintenant l'un des articles les plus cités aussi au monde. Et donc c'est important, ça met l'Observatoire de Louk Hamilden comme on est co-auteur dans cet article-là, ça le met encore en avant, encore un peu plus.
Du coup, l'astrophysicien Zahir Ben Khaldoun, qui dirige cet observatoire Louk Hamilden dans le Haut Atlas marocain, a le projet de faire de cette région encore assez épargnée par la pollution lumineuse la première réserve étoilée d'Afrique du Nord. Vous reproduisez d'ailleurs dans votre dictionnaire amoureux hein, du ciel et des étoiles, Trinh Tuan Tuan, le schéma d'un artiste sur ce système trappiste, ce plus important système d'exoplanètes découvert.
Oui, c'est une importante découverte dans le domaine de la recherche sur les exoplanètes. Vous savez, on a découvert quelques 4000 maintenant, après que le satellite Kepler, 4000 ou 5000 exoplanètes maintenant.
Vous donc, montrez d'ailleurs aussi l'image de la première, hein, c'était l'étoile 51 Pégase, la première exoplanète.
La première exoplanète qui a été découverte. En fait, c'est cette découverte qui a provoqué l'avalanche des observations qui ont suivi. Vous voyez,
parce qu'on ne cesse d'en découvrir. Hein.
Voilà. Mais au début, on pensait que vous voyez, ces planètes devaient avoir des périodes. Parce qu'en fait, on ne voit jamais directement ces planètes. C'est toujours...
C'est ça, elles sont hors de notre système solaire, donc c'est indirectement qu'on peut
oui,
les...
Oui, c'est-à-dire, la planète, si elle existe, attire gravitationnellement donc, l'étoile. Et donc, ça fait des petites variations de vitesse de l'étoile. Donc, c'est en mesurant, vous voyez, ce qu'on appelle la vitesse radiale, donc la vitesse, et en voyant les variations périodiques en fonction du temps,
qu'on sait qu'il y a des exoplanètes
autour, voilà. Donc Michel Mayor et son collègue donc suisse, en utilisant d'ailleurs un observatoire en France, d'ailleurs l'observatoire de Haute-Provence, ont découvert cette première exoplanète et depuis ça a ouvert un champ d'investigation extraordinaire. Et donc maintenant, comme je vous dis, c'est l'ordre de 4000 à 5000 exoplanètes qui sont confirmées maintenant.
Et ce sont aussi des pistes pour essayer de chercher la vie
extraterrestre.
La vie ailleurs, la vie extraterrestre.
Tout à fait.
Autre chapitre sidérant pour notre imaginaire de poussière d'étoiles. Vous-même, Trinh Tuan Tuan, vous avez découvert grâce au télescope Hubble la plus jeune galaxie de l'univers.
Oui, tout à fait. Parce que moi, mon domaine de recherche, c'est vraiment la formation des galaxies. Et moi, je pense que ces jeunes galaxies, justement, sont... des galaxies, c'est les briques des galaxies en fait, en coalescent ensemble par la gravité, vous voyez, ces galaxies naines vont former de belles galaxies normales comme la Voie lactée d'ailleurs. D'ailleurs, la Voie lactée est en train de, dans 2 ou 3 milliards d'années, elle va englober, vous voyez, elle va engloutir les deux galaxies naines qui sont en orbite autour de la Voie lactée maintenant, qui sont ce qu'on appelle les nuages de Magellan,
les nuages de Magellan vont être engloutis par notre Voie lactée.
Donc ce sont des galaxies naines qui tombent dans des galaxies, vous voyez, pour former des galaxies plus grandes. Donc moi, je voulais avoir donc ces briques de galaxies étudiées et ces galaxies sont plus jeunes parce que je sais qu'elles n'ont pas eu beaucoup d'éléments lourds. Je vous ai dit tout à l'heure que ce sont les éléments lourds, plus lourds que l'hydrogène et l'hélium, sont fabriqués par les étoiles. Alors quand elle manque d'éléments lourds, ça veut dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de générations d'étoiles avant l'actuelle, vous voyez. Et donc,
qu'est-ce que c'est jeune pour une galaxie?
Jeune pour une galaxie, c'est un milliard d'années. Donc à l'échelle humaine, bien sûr, c'est pas jeune, mais à l'échelle de l'univers, qui est l'âge de l'univers, c'est 13,8 milliards d'années, donc environ 14 milliards d'années. Un milliard d'années, vous voyez, c'est très jeune.
On n'a pas parlé des planètes aussi dans ce dictionnaire amoureux du ciel et des étoiles, Trin Chuan Chuan, parce qu'évidemment, il y a P comme planète, il y a M comme Mercure. Sur laquelle on s'arrête là? Allez, restons dans notre système solaire, mais sur quelle planète on pourrait s'arrêter là?
Vénus pour l'avertissement de l'effet de serre qu'elle nous donne, et puis Mars, dans lequel beaucoup de gens comme Elon Musk, avec SpaceX maintenant, veut aller sur avoir une colonie sur Mars.
Entre Vénus et Mars, il y a l'extrême chaud et l'extrême froid, quoi.
Non, pas, c'est pas l'extrême,
c'est pas
froid,
ça.
Mais l'extrême froid, c'est encore des planètes plus lointaines. Mais Mars, ce sont les deux planètes qui sont les plus proches de nous. Parce que vous voyez, Vénus, si on adopte comme unité de distance, l'unité astronomique, c'est la distance Terre-Soleil. Donc, Vénus, c'est à 0,25 de nous. Donc, c'est à 0,75 du Soleil, vous voyez, donc 0,25 de nous, à une unité astronomique. Et Mars, c'est 1,5 unité astronomique de nous. Donc, et Vénus, moi, je veux en parler parce que son atmosphère, c'est 96% du carbone dioxyde, CO2, vous voyez. Et la température, il y a un effet de serre énorme. Et la température, c'est 450 degrés centigrades. Donc, vous posez un métal et ça fond instantanément. Donc, aucune vie n'est possible. Et vous voyez, c'est pas tellement loin de notre planète. Et pourtant, à cause du CO2, vous voyez, c'est devenu un enfer. Et donc, il ne faut pas que notre planète suive ce même chemin. Parce que maintenant, vous savez bien...
La température monte, changement climatique.
Changement climatique, fonte des neiges,
ne suivons pas l'exemple de Vénus.
Voilà, donc ça c'est un avertissement que la nature a fait l'expérience juste à côté de nous. Alors Mars, c'est intéressant, mais bon... et pourquoi c'est intéressant? Parce que bon... On pensait toujours, quand on parlait de E.T., vous voyez, que c'était les Martiens. Donc, les astronomes d'antan pensaient qu'ils voyaient des canaux comme ça. Et donc, ils ont... Mais des choses linéaires, on sait maintenant qu'il n'y a pas de canaux. Hein, mais en fait, des fleurs de livres desséchés, on voit, des sédiments. Donc, on sait qu'il y a eu de l'eau courante sur Mars il y a 2 ou 3 milliards d'années. Alors, qui dit eau, dit vie? Alors, peut-être qu'il y a des microbes, des micro-organismes.
Des
donc, pas la
vie
consciente, hein, pas des martiens qui creusent des canaux.
Ça, on en est sûr, mais peut-être des traces de vie.
Oui, des traces de vie très primitives. Pas de la vie intelligente, probablement. Mais, donc, on cherche toujours, parce que pour l'instant, on n'a rien trouvé. Où est passée l'eau? Alors, il y a, bien sûr, les calottes glaciaires sur Mars. Donc, les futures missions devraient aller creuser sur les calottes glaciaires pour voir. Et puis, peut-être l'eau s'est infiltrée en profondeur. Donc, il faut creuser le sol martien aussi pour voir s'il y a des microbes là-dessus. Donc, tout ça, c'est pour le futur. Mais pour l'instant, moi, j'aime bien notre planète. Il faut vraiment essayer de la sauver. Moi, je pense que c'est le message.
Essayons de sauver notre planète. Hein. Vous restez sur notre planète pour observer les autres.
Oui.
À moins que vous ne soyez tenté d'aller les observer de plus près. C'est tout le sens de la question que vous pose maintenant. Question malicieuse, Mathieu Novak, du mensuel Science et Avenir.
Si vous pouviez monter dans une navette et aller quelque part dans l'espace, où est-ce que vous iriez?
Où est-ce que vous iriez? Alors, on l'a bien compris, hein, Trin Chuan Chuan, vous nous dites il faut s'occuper de notre planète.
Hein.
Oui,
parce que bon, le voyage spatial, vous voyez, demande trop de préparation. Et moi, je ne veux pas passer toute cette vie à préparer pour juste un voyage. Et donc, mais bon, si je pouvais aller dans un vaisseau spatial, peut-être que j'irais visiter ma galaxie jeune, hein, Suki 18. Bon, c'est loin quand même. Hein. C'est quand même à 20... C'est 60 millions d'années-lumière quand même.
Ça fait un bout, comme on dit. C'est ça.
Bon, mais on peut. Hein, on peut, si on va à la vitesse de la lumière, le temps ralentit. Ça, c'est la relativité. Donc, on peut... Je peux aller jusque-là, mais revenir sur Terre, c'est vrai que je ne verrai plus rien parce que, bon, c'est ça... parce que mes gens de génération sont morts depuis belle lurette.
Oui, donc je ne sais pas s'il faut vous conseiller d'y aller. En tout cas, si vous allez voir la galaxie, la plus jeune galaxie que vous avez découverte,
oui,
peut-être emporterez-vous votre morceau de jazz préféré, signé John Coltrane. Sur RFI, on écoute un extrait de My Favorite Things. John Coltrane sur RFI, merci pour ce choix musical. Trine Tuan, expliquez-nous pourquoi John Coltrane en particulier, mais le jazz, oui. Improvisation, j'aime... parle tant au... oui. à l'astrophysicien que vous êtes.
Oui, j'aime beaucoup le jazz et je dis toujours que la nature joue du jazz, voyez.
La nature joue du jazz.
Oui,
improvise.
Oui, improvise parce qu'il y a des lois physiques, donc il y a une trame déjà dans un morceau de jazz. Mais en fonction de la réaction de l'audience, l'inspiration de l'artiste, vous voyez, il y a toujours les variations de l'improvisation. Donc, il y a liberté de création aussi dans des lois physiques. Donc, la nature est comme ça, vous voyez, des lois physiques, mais elle innove, elle invente, elle nous surprend toujours, en fait. Et toujours quand nous braquons un nouveau télescope vers le ciel, nous découvrons des nouveaux phénomènes, lesquels... les gens n'ont pas pensé.
On va laisser l'univers aussi jouer sa partition au-dessus de nos têtes en écoutant un astrophysicien qui vous a évidemment marqué. Je veux parler d'Einstein, dont vous partagez aussi les interrogations métaphysiques. Vous le citez dans ce très beau dictionnaire amoureux du ciel et des étoiles. Je vous propose d'écouter Einstein, ou plus exactement Didier Bleu, qui lui a prêté sa voix sur RFI.
L'émotion la plus belle que nous pouvons éprouver est le sens du mystérieux. C'est cette émotion fondamentale qui est à la racine de tout art et de toute science authentique. Celui qui ne connaît pas cette émotion, qui n'a plus le sens du merveilleux, est comme mort, telle une bougie éteinte. Le sentiment que, derrière chaque chose dont nous faisons l'expérience, il existe quelque chose que notre esprit ne peut appréhender, dont la beauté et la subtilité ne nous parviennent que de manière indirecte, c'est cela, pour moi, le sentiment religieux. En ce sens, et seulement en ce sens, je suis profondément religieux.
vous rejoignez Einstein, Trin Chuan Chuan, dans ce, goût du mystère.
Tout à fait, le sens est mystérieux. Et il le dit très bien, toute personne qui ne ressent plus ce sentiment est comme mort, il n'est plus humain. Et c'est le sens du mystère, du fait que je sais que j'approcherai toujours plus de la vérité, mais que je la découvrirai jamais tout entière. Mmh. C'est pourquoi, d'où le sens d'ailleurs, le titre de mon premier ouvrage, c'est la mélodie secrète. Vous voyez, il y a une mélodie des lois physiques, des notes de musique qui sont assemblées ensemble, un ensemble harmonieux, mais dont on découvre peu à peu les notes, mais on ne découvrira jamais tout. La mélodie restera toujours secrète.
Alors, quel est peut-être le mystère que vous rêveriez de percer un peu au cours de votre vie, Trin Chuan Chuan?
Moi, je pense que ce sera la nature peut-être de la masse noire et de l'énergie noire. Vous savez, nous ne savons pas, l'énergie noire constitue 70% du contenu de l'univers et la masse noire exotique, c'est-à-dire qui n'est pas constituée de photons, de protons et de neutrons comme la matière noire ordinaire, c'est 25%. Donc, on ne connaît pas 95% du contenu de l'univers. Vous voyez, malgré toutes nos connaissances, nos
ignorances, hein, ouais.
Oui, l'univers nous remet à notre place, nous insuffle un sens de la modestie. Et donc, voilà, donc, ce sera un grand bonheur si un jour je peux m'approcher de ce grand mystère.
L'univers nous remet à notre place, vous dites, être astrophysicien, être astronome, ça rend évidemment un peu philosophe aussi, philosophe.
Bien sûr. Surtout quand le sujet, la cosmologie, donc l'étude de l'univers dans tout son, entier, c'est parce que c'est... Ça ramène inévitablement à la question de l'origine et d'un créateur, ou ce que j'appelle un principe créateur, parce que je suis bouddhiste, donc il n'y a pas le concept de Dieu dans le bouddhisme. Mais un principe, je pense qu'il y a un principe créateur qui a réglé les choses dès les premières fractions de seconde après le Big Bang, de façon extrêmement précise, pour que la vie et la conscience apparaissent. Parce que je pense... Pour moi, l'univers n'a pas de sens s'il était vide et stérile et qu'il n'y a personne pour organiser, pour apprécier cette organisation. Voyez, donc pourquoi créer cette beauté, cette harmonie sans que personne ne l'apprécie?
Vous avez développé ça aussi dans un très bel ouvrage personnel, hein, le cosmos et
le lotus. Tout à fait, qui raconte mon parcours personnel.
Eh ben, je peux renvoyer nos amis auditeurs aussi sur cet ouvrage-là. Je vous remercie infiniment, Trin Chuan Chuan, d'avoir profité de ce passage à Paris avant de repartir demain, je crois, aux États-Unis.
Pour reprendre mes cours lundi. Oui.
Dans l'université de Virginie, où vous enseignez l'astrophysique aux poètes et aux littéraires. Je renvoie bien sûr à votre magnifique dictionnaire amoureux, illustré, du ciel et des étoiles, un très très beau livre qui vient de paraître en coédition Plomb et Grunt, et que je ne saurais trop conseiller à nos amis auditeurs. Merci beaucoup, Trin Chuan Chuan.
Merci de m'avoir invité.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur le site du RFI et sur l'appli RFI Pure Radio. Avec Hugo Violas à la réalisation et Tania Tsikounas en coulisses, nous vous donnons rendez-vous lundi, chers amis auditeurs, pour partager ensemble de nouvelles interrogations. D'ici là, surtout, portez-vous bien, restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure d'un prochain journal, juste après les bandes annonces.